Bonjour. Donc, tout le monde, merci d'être venu. Il faut que je... Oui, bien sûr, hein, que je mette le portable en mode avion. Donc, pour ce samedi du livre, donc organisé avec le CIPH et la mairie de Paris et la médiathèque Madeleine Berg, qui nous fait le plaisir de nous accueillir, autour du livre donc d'Agnès Guéraud, La dialectique de la pop. Et nous bénéficions de la présence de l'invité surprise et essentiel, Richard Memto. Donc, je vais présenter rapidement les deux auteurs, et puis je dirai quelques mots de la dialectique de la pop, et ensuite nos questions fuseront, et aussi sans doute celles de l'auditoire. Donc toi, Agnès, tu es maître de conférence en esthétique à la Villa Arson à Nice. Et après une thèse consacrée à la critique de la subjectivité chez Adorno, donc tu as publié l'année dernière, il y a presque un an maintenant, La dialectique de la pop aux éditions Philharmonie La Découverte. Depuis un an, donc c'est un livre dont tu as beaucoup parlé sur différents supports, sur lesquels on t'a beaucoup interrogé. Donc j'espère que cette fois, voilà, tu n'auras pas trop... à te répéter, et pour éviter ça, nous a rejoint donc Richard Memto, qui est l'auteur très récemment d'un Sex Friends, dont j'ai comment bien rater sa vie amoureuse à l'ère numérique.
C'est ça, exactement.
Voilà, ça n'est pas exactement pour celui-là que tu es là, mais ça n'est absolument pas incompatible. C'est pour ton livre de 2014 chez Zone, qui a été réédité il n'y a pas longtemps à La Découverte.
Oui.
Voilà. Pop culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités. Nous croyons, partage certaines perspectives communes et suffisamment différentes, en tout cas, pour que ça donne lieu à débat. Quelques mots rapides sur Dialectique de la pop. C'est un ouvrage de philosophie sur la musique pop, et le titre l'annonce assez bien, quitte à faire un peu peur avec ce terme de dialectique. Mais effectivement, on se rend très vite compte en te lisant qu'un livre sur la musique pop ne peut être que dialectique, puisque si la dialectique, c'est le discours qui embrasse les contraires et essaye de les penser ensemble, la pop est pétrie de contradictions, ou en tout cas de tensions dont elle se nourrit. Alors j'en cite quelques-unes qui sont les figures que toi-même tu mets en avant. Tension entre l'authenticité, mais qui ne peut passer que par en quelque sorte l'artifice de l'enregistrement, entre le sujet génial et sa nécessaire universalité, entre la magie de la petite singularité musicale qui devient standard formaté, entre son innocence et quelque chose comme une histoire qui est inévitable. Et s'il y a dialectique, ou même plutôt, comme tu le dis, si la pop est une forme brisée, c'est parce que ces contradictions ne doivent pas être résolues ou effacées, ou même synthétisées. Elles sont le moteur de la musique que tu décris. Donc j'avais noté la définition finale que tu donnes de la pop. Je vais la lire pour qu'on l'ait en tête dans toute sa complexité, même si c'est pas le but de l'expliquer. Mais tu dis que la pop est un art musical de l'enregistrement sonore qui se rapporte à la promesse d'une utopie de la popularité de façon constitutive et mise sur les ressources expressives de l'incarnation individuelle pour le réaliser. Autrement dit, finalement, cette synthèse entre la singularité et le caractère populaire de la pop, c'est plutôt une utopie dont se nourrit la pop que quelque chose qu'elle réalise effectivement, effectivement là. Donc ceci étant posé, la première question que j'aurais envie de poser, c'est, tu définis, alors il y a deux termes dont tu te sers pour définir un peu, ou en tout cas pour désigner la musique pop. C'est à la fois le terme de forme, alors qui parfois finalement devient format dans le cadre d'un formatage, parce que les chansons pop, souvent, on peut avoir l'impression qu'elles se répètent. Et en même temps, tu insistes sur le fait que c'est un art musical. Et je voudrais savoir que tu nous dises un peu quels sont les enjeux, y compris aussi philosophiques, de le définir précisément comme ça, la pop.
Merci Pierre pour cette présentation. Une première précision qui me semble utile à ce stade, c'est de bien faire comprendre que quand je dis le mot pop, en réalité, c'est au sens de popular music tel que les anglo-saxons l'emploient, c'est-à-dire pas simplement la pop au sens pop mainstream ou pop Beatles contre Rolling Stones, par exemple, ou Buddy Holly contre Eddie Cochrane, ou pop au sens radiophonique. Quand j'entends le mot pop en l'occurrence, c'est pour signifier musique populaire enregistrée, et j'appelle ça une forme pour pouvoir la laisser englober différents genres. C'est-à-dire que la pop, telle que je la pense, elle convoque des genres comme le rock, la soul, le jazz, une partie du jazz, pas tout jazz, on pourra en reparler, le reggae, le doom, donc tout un ensemble de genres comme ça qui peuvent s'inscrire, ou le blues, et je parle même de flamenco, donc ça va assez loin dans le... Je m'autorise des sortes je déverrouille un peu aussi certaines représentations comme musique traditionnelle du flamenco, du jazz, absolument comme musique improvisée, bon, peu importe, mais tout ça pour dire que popular music ici, pop, c'est vraiment musique populaire enregistrée. Et à mon sens, c'est une musique qui commence, qui s'enracine dans certaines conditions de possibilité, et la première condition de possibilité, la première condition matérielle de sa possibilité, c'est l'enregistrement, c'est-à-dire le moment où on se met à enregistrer des gens qui chantent sans que ça passe par une médiation, sans qu'ils interprètent finalement quelque chose d'écrit. Donc ça commence pour moi dès les Lomax qui vont au fin fond des Appalaches ou dans des pénitenciers pour enregistrer des gens, des prisonniers ou des gens qui n'ont pas spécialement d'éducation, des gens qui sont musiciens, hein, qui font le tour d'Amérique à l'époque, la Carter Family par exemple, enregistre des morceaux dans les années 30, c'est vraiment une famille de musiciens, et le moment où on entre dans un certain régime de production qui est celui de la musique populaire enregistrée, c'est-à-dire de la musique populaire moderne, parce que la musique populaire est bien plus ancienne que la pop évidemment. Donc j'y reviendrai, hein, je distingue d'une certaine idée du folklore. À partir du moment où on se met à enregistrer les gens et à jouir de cet objet esthétique qu'est l'enregistrement de leur voix comme d'un objet de contemplation, d'écoute pour l'auditeur, on a un objet qui est effectivement un objet de musique populaire enregistrée et qui va compter comme ces œuvres de musique populaire enregistrée que jusqu'à aujourd'hui nous apprécions comme telles en écoutant un morceau, le dernier Bill Callahan. Mais si on écoute un morceau de Led Belly enregistré par les Lomax en 1934, eh bien, il y a bien un rapport à cette chanson enregistrée, cette captation particulière avec la voix de Led Belly telle qu'elle accroche ou pas à ce moment-là, avec les sons du field recording du moment, puisque le contexte c'est plutôt un micro, c'était quand même le principe, mais c'est d'enregistrer in the field. Donc évidemment on peut penser à d'autres formes de musique populaire où on n'est pas du tout in the field et on travaille à partir d'émulation, j'y reviendrai. Mais tout ça pour vous dire que quand par exemple Bartok, lui, il va enregistrer de la musique folklorique en Hongrie ou en Europe de l'Est ou en Bulgarie et qu'il procède pour, si vous voulez, consigner en fait des chants ou des mélodies qu'il va adapter ensuite. Donc l'enregistrement tel que le pratique Bartok en tant que folkloriste à ce moment-là, même si il y a des notes de Bartok où justement il comprend qu'en fait l'enregistrement est quelque chose de fondamental, mais en tout cas là ça fonctionne comme un système de bloc-notes, un système d'archives de mélodies qui vont être adaptées dans une musique écrite. Les Lomax, c'est pas du tout ça. Ils enregistrent pour avoir des enregistrements, pour avoir la voix de ce chanteur incroyable qu'est Led Belly, pour vraiment montrer cette espèce de sensation d'authenticité, parce qu'ils sont vraiment en quête de ça, hein, John et Alan Lomax, père et fils. Surtout Alan Lomax qui va continuer jusqu'après les années 60. Et c'est vraiment l'idée qu'on va capturer une présence, une expressivité humaine, et que cela, seul l'enregistrement de la musique populaire va permettre de le fixer. Et donc, il me semble que dans toute l'histoire de la pop, de cette popular music, il va y avoir comme ça cet ancrage dans ce moment de l'enregistrement qui voilà, permet de, une capture d'un événement expressif. Et ça, aucune autre forme de musique, d'art musical, je veux dire plutôt que de musique, ne l'avait permis jusque-là, puisque voilà, c'est soit musique écrite, soit une musique folklorique, où bien sûr il y a de l'événement, mais il n'y a pas fixation de cet événement, il y a une transmission orale. Donc je reviens à ta question, quand je parle de forme, la forme ici c'est vraiment, c'est presque au sens kantien, quoi. C'est la forme transcendantale, c'est-à-dire c'est la condition de possibilité. Alors, c'est un transcendantal, mais matériel. Donc c'est un petit peu ça leur invité, mais c'est... pour parler de musique populaire, si on parle d'un objet de musique populaire enregistré, c'est-à-dire de pop, d'un objet de musique populaire moderne, eh bien, il faut en passer par cette condition matérielle qui détermine tous les objets pop, c'est le fait qu'ils sont enregistrés. Et tout, alors, on va immédiatement me dire, oui, mais alors les chansons, c'est pas pop. Oui, mais les chansons, c'est pop, mais c'est beaucoup plus ancien que la pop, les chansons. C'est pas parce que la pop est faite de chansons que, que sa condition pour être, c'est d'être une chanson. Non, cette condition, la condition d'une œuvre pop, c'est d'être un enregistrement. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'en viens à l'idée que ça ne suffit pas pour de multiples raisons. Et notamment le fait qu'il y a d'autres musiques enregistrées au XXe siècle, fondamentalement enregistrées, qui ne sont pas des musiques populaires. En l'occurrence, la musique concrète, qui mise justement sur l'enregistrement et sur l'expérience acousmatique des sons, c'est-à-dire que cette idée qu'on écoute les sons sans se préoccuper de leur source, mais simplement en s'intéressant à leur texture. Pas seulement texture, c'est un terme un peu vague ici, mais... Or, en pop, de toute évidence, et notamment dans ces genres, là je vous parlais de blues ou de folklore enregistré du début du siècle, donc de folk, le moment où on passe du folklore au folk, on n'a pas du tout une expérience qui est uniquement centrée sur une expérience acousmatique. On se représente dès que, si on passait là un morceau... je sais pas moi, de Blind Willie Jefferson, immédiatement on se représente la personne derrière cette voix, on se représente d'ailleurs d'abord s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, s'il est noir, s'il est blanc, et on l'imagine vaguement dans un contexte voilà, d'Épinal peut-être, devant son Porsche, chantant sa chanson, et non pas devant sa Porsche. Bon, bref, donc ça c'est un autre contexte de représentation. Et tout ça pour dire qu'on ne peut pas s'empêcher, à l'écoute de ce type de musique, d'aller au-delà, d'aller chercher la source, d'aller penser aux instruments qui sont en compte, qui rentrent en ligne de compte, et de penser à qui chante, à l'incarnation qui s'exprime là. Et c'est pour ça que La voix vous semble aussi déterminante dans cette musique populaire enregistrée, et que c'est aussi une histoire de la voix, l'histoire de la pop. En tout cas, une histoire d'une ouverture d'une infinité de voix au royaume de l'art. Parce que si on s'en tient voilà, aux voix ordonnées de lyrique, hein, y a plein de voix pop qui sont fausses, dont on ne peut pas dire qu'elles sont soprano, alto, on ne sait pas. On peut identifier plus ou moins. Mais... Donc, tout ça pour dire que la forme, qui est un petit peu le geste ontologique du livre, le moment où il s'agit de trouver une sorte de condition philosophique, c'est vraiment un moment, c'est le moment minimal. C'est le moment qui est simplement là pour donner un contour, sans pour autant que ce contour, et je vais m'arrêter là sinon t'auras pas assez, mais sans pour autant que ce contour mette des barrières entre les musiques. Que très vite, je me suis rendu compte que si je voulais réfléchir philosophiquement à la pop, il ne s'agissait pas de dire, alors c'est, il ne s'agissait pas de distinguer les musiques, parce que très vite, je me suis rendu compte que la pop se nourrissait de tout un tas de musiques. Et en pop, il y a de la musique concrète, il y a du Bach, il y a du Pachelbel, il y a du Messiaen, on va piquer un peu partout quand on fait de la pop. Donc la musique elle-même circule. Et on sent bien que voilà, l'opposition musique populaire, musique savante, comme si en musique populaire on s'interdisait certains accords. Non, ça ne fonctionne jamais jusqu'au bout. Donc mon geste de distinction, et de ce geste de distinction avec l'enregistrement, et donc l'idée de forme, elle est vraiment là pour parler d'art musical plutôt que de musique. C'est-à-dire elle est plutôt là pour parler de manière de produire de la musique que pour qualifier un type de note ou un type de tonalité ou un type d'harmonisation voilà, ou un type d'arrangement. Parce que ça, voilà, c'était une obsession quand j'ai écrit ce livre, c'était de laisser ouvertes les possibilités d'écriture et de composition à l'intérieur de cet art.
D'accord. Merci beaucoup. Il y a une remarque que fait Grassic dans Rhythm and Noise, qui est un de tes seuls prédécesseurs dans les livres un peu consacrés. Donc lui il appelle ça rock, mais globalement vous avez à peu près le même objet. Et lui c'est juste pour une précision. Lui il dit voilà, alors effectivement le caractère constructif permanent de l'enregistrement il existe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pur documentaire jamais à aucun moment. Mais il dit ceci dit avant le moment, et lui c'est pour ça qu'il fait commencer la pop. Alors c'est des histoires de dates certes, mais déplacées conceptuellement un peu. Lui fait commencer ça avec Elvis parce qu'il dit avant, même si les Lomax sont une visée documentaire et archivistique, il n'y a pas d'attention artistique qui est portée sur le médium lui-même. Nous, on rétroprojette d'une certaine manière cette attention, et ça joue à plein dans le fantasme de l'authenticité que tu décris souvent. Mais voilà, lui aurait plutôt tendance à dire voilà, ce qui va spécifier ce qu'il appelle le rock, c'est le moment où on commence à faire attention au médium, à ce médium enregistré là, davantage que le moment où on commence à véritablement enregistrer. Est-ce que
Oui, ça me paraît délirant en fait d'imaginer qu'on a attendu 40 ans pour se rendre compte que le médium introduisait des déterminations esthétiques. Et je pense que les Lomax sont convaincus que ça ajoute, enfin même les parasites déjà, qui vont capturer dans le field recording. Enfin, il y a un morceau qu'on pourrait diffuser, mais de John the Revelator, qui est un morceau sur Saint Jean de l'Apocalypse, qui est chanté par, il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a plusieurs versions, mais je crois que c'est la version de Blind Willie Jefferson qui la chante avec sa femme qui joue de la guitare. Et lui, il chante avec une grosse voix très très chargée de je ne sais quoi. Et il est aveugle, donc il demande qu'est-ce qui est écrit. Et sa femme derrière, donc lui, on le voit, il est très près dans l'enregistrement. Faudrait peut-être qu'on le diffuse, je vais le chercher. On va perdre du temps peut-être. Mais... je vous le fais. Donc lui, il prend vraiment sa grosse voix. Et sa femme derrière qui joue de la guitare. Donc il demande... who's gonna rise? Et derrière, on entend une voix qui fait John the Revelator. Et elle est vraiment derrière. C'est évident qu'il y a une spatialisation là qui opère et que c'est l'objet esthétique, il est travaillé, il est spatialisé. Qu'il n'y ait eu qu'une prise, et c'est pas sûr d'ailleurs, pour le produire, n'empêche pas qu'il y a une réflexion sur le médium de l'enregistrement. Il ne faut pas aussi ignorer qu'à l'époque, il y a aussi toute cette question. Enfin, dès les débuts de l'enregistrement, toute cette fascination pour le caractère fantomatique, le fait que l'enregistrement conserve la voix des morts et qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantôme. Et en même temps, justement, je cite dans le livre un moment où Lomax raconte que une scène comme ça entre des paysans et l'un qui dit qui trouve que c'est une machine. Inquiétante en fait, cette machine qui reproduit des voix humaines défuntes, et qu'un autre paysan lui dit mais t'es stupide quoi, enfin tu vois bien que c'est une technique et que ça nous permet de réentendre cette voix. Donc je pense que la distanciation nécessaire à faire de l'enregistrement une médiation esthétique, elle est très rapide en fait. Il faut voir que quand même dans les années 30 la radio elle explose en fait, c'est vraiment le moment où on commence à s'écouler. Enfin voilà, toi-même traduis un ouvrage d'Adorno qui parle de ce moment. Enfin, il y a l'introduction de Robert Hulot Cantor à Current of Music d'Adorno. Et ce que raconte Hulot Cantor, c'est que dès les années 20, il y a une partie importante des Américains qui est équipée de postes de radio. Et le poste de radio, c'est quoi? C'est quand même la diffusion massive d'une musique déterritorialisée, d'enregistrement. Et qui fait que, je parle de Ernst Tubb à un moment qui a un chanteur de country et qui écoute Jimmy Rogers, qui est fan de Jimmy Rogers, qui yodle. Donc c'est quand même un chant, le yodel, c'est censé venir d'Europe. Donc toutes ces possibilités, non seulement de l'enregistrement comme véhicule déterritorialisant de sons voilà, qui s'origine ailleurs, mais aussi d'une puissance de mise en scène par la réverbération, par le parasite qui produit un effet d'authenticité, tout ça, me semble-t-il, ça intervient dès le départ, en réalité, dès l'apparition des labels, qui joue en plus sur l'idée de la old times music. Tu sais, c'est les premiers les labels de musique blanche américaine sudiste se qualifient dans les années 20 de label de old times music. Donc disons, il joue également sur le fait que l'enregistrement, il y a quelque chose qui évoque un passé lointain dans l'enregistrement. C'est une espèce de présence, mais qui contient en elle du lointain. Et c'est pour ça que je dis à un moment que c'est l'invention d'une aura reproductible. C'est pas la disparition de l'aura, parce qu'il y a une définition benjaminienne de l'aura qui dit c'est un lointain si proche soit-il. Et c'est vraiment ça. C'est l'expérience du lointain, comme si ces voix, comme ça, elles venaient étaient ancestrales, étaient pré-industrielles, et pourtant elles sont véhiculées par un médium, le médium phonographique fondamentalement industriel. Et je pense que, en tout cas, toute cette complexité qui constitue la complexité esthétique de l'enregistrement, elle advient dès ce moment-là. Et les voix de crooner dans les années 30, voilà, cette possibilité de chanter de près, Adorno en parle. Oui. Il parle de ces voix-là, ou du baby talk. Hey daddy! Donc tout ça, ça marche avec la sonorité phonographique. Donc on n'a pas attendu Elvis. Oui.
Et alors, du coup, le définir comme art, ça implique de lui donner, enfin, si ce n'est une finalité, bon, du moins un but, un idéal, qui fait que finalement, parler d'esthétique à propos des musiques pop, ça dépasse simplement le phénomène sonore en tant que tel, ça le déborde. Et alors, en ce sens, puisque ça déborde le phénomène musical, on pourrait penser que ça pourrait éventuellement, et c'est là un gros clin d'œil appuyé à Richard, que ça déborde la musique elle-même, puisque. Bah, c'est obligé à un moment. Hein, voilà.
Non, mais en réalité, c'est ma question pour plus tard. Mais c'est vrai qu'on se demande, puisque tu donnes quand même une forme dialectique pop qui est pas simple, enfin, qui est pop, mais pop à propos de la pop musique.
Oui.
Et évidemment, on se demande si ça peut pas s'appliquer à autre chose que la pop musique. C'est-à-dire, tu me rappelais la volonté d'être populaire, l'idée qu'on puisse donc à la fois être innocent tout en ayant une histoire. Répéter ou mécaniser des choses qui paraissent totalement spontanées. On a envie de peut-être projeter au fond ce que tu as esquissé dans cette dialectique de la pop musique ailleurs. Et alors, si c'était ailleurs, ce serait ouf, hein, tu vois.
Moi... Ça, c'est à toi de répondre. Ah. C'est toi qui poses la question.
Ouais, bah, écoute. Non, mais effectivement, moi j'ai l'impression que c'est une dialectique exportable dans d'autres domaines. Moi, je pense par exemple à un des médiums qui est quand même assez ancien et qui pour moi aussi est très très pop, c'est la bande dessinée par exemple. La bande dessinée, effectivement, peut mécaniser des choses qui sont des traits, des formes qui sont tout à fait idiosyncrasiques. Il y a une histoire, une mémoire, tout en essayant de répéter systématiquement, faire renaître, faire mourir les héros. Il pourrait y avoir des vraies coïncidences entre la musique et la bande dessinée, par exemple. Mais est-ce que tu le vois exporté ailleurs ? Parce que moi, je propose ma petite bande dessinée, là, mais est-ce que le cinéma, est-ce que... Des choses, parce qu'on parle souvent, et en réalité ton livre forcément résonne avec ça, on se parle souvent de pop culture, et il y a un petit tacle dans le livre. <C'est clair. rire> si, il y a plusieurs petits tacles, et parfois d'ailleurs tu parles du magma pop, ou voilà, cette espèce de fourre-tout où on confond tous les médiums, justement on perd la spécificité du médium musical. Et alors, est-ce que tu peux exprimer plus de, comment dire, de réserve encore que tu ne le fais dans le livre, parce que tu le fais très élégamment, tu passes rapidement. Mais au fond, peut-être que tu as plus à dire encore sur ce magma pop qui peut-être te dégoûte un peu, je sais pas. Explique-nous.
Merci, Richard. Mais alors, tout à fait. Disons que ce qui se passe... Alors, comment, par quel biais le prendre Je crois en effet qu'il y a cette approche de la musique populaire à partir de ce qui n'est pas de la musique à une place importante dans le discours. Et que le tacle, il vient aussi simplement de ce rapport de domination à un moment donné, de dire laissez-nous parler un peu de musique. Quoi. Ce qui ne veut pas dire évidemment que l'interpénétration de la dimension, notamment visuelle et iconographique graphique et phonographique, n'est pas fondamentale, ne sont pas. Pour moi, c'est une sorte d'évidence, mais dont justement il s'agit de un temps. C'est mon époquée, quoi. C'est un petit moment de suspens. On suspend un petit peu le poids de la pop culture et la grande confusion, le grand mélange pop culturel pour à un moment quand même s'intéresser à la musique. Mais derrière ça, il y a aussi le problème de l'idée de la culture qui intervient souvent comme une espèce de cache-misère de l'absence d'art. C'est-à-dire que il y a l'idée un petit peu que culture veut dire pratique plutôt que forme, justement. Et je pense que quelqu'un comme toi qui a travaillé sur la pop culture est complètement convaincu que ça, elle produit des formes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais donc c'est plutôt mon geste, il ne s'adresse pas finalement aux gens qui abordent finement la pop culture, mais à ceux qui instrumentalisent un peu cette idée de la pop culture pour ne pas voir qu'au sein de la pop culture il y a des arts, il y a déclinaison de certains arts visuels, et en effet la bande dessinée en est une. La musique pop reste de la musique. Donc à un moment, si on veut s'interroger sur de quel art il retourne, c'est peut-être plutôt par la question de la musique peut-être plutôt par la question de l'art musical que par celle de la pop culture qui s'agit d'entrer. Donc si tu veux, c'est pas une question d'hostilité, mais c'est une question de stratégie de retrouver la possibilité d'un discours qui utilise le mot art, parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, même en allant à France Culture en parler du livre, le terme de culture revenait tout le temps, et je sens que ça frotte quand je dis pop et art à côté, qu'on me regarde un peu à quoi. et justement c'est ce que je veux défendre, quoi.
Non, c'est vrai, et en même temps j'ai plein de choses à dire, mais je trouve qu'effectivement j'avais l'impression que tu voulais tenir aussi à distance la sociologie. Et la sociologie, c'est vrai, était très très rapide en fait à s'emparer de tous les objets pop culturels ou culturels dans un sens très large. Et on a besoin, si on veut faire un petit peu de place à la philosophie, de tenir à distance la sociologie. Mais la question du goût, elle y revient un peu, elle nous confronte quand même à des réalités sociologiques. Et si je dis ça, c'est parce qu'en réalité, dans l'introduction, je ne sais pas si j'ose le lire, mais disons que tu dis très rapidement, en fait, ce qu'essaye de faire comme jugement l'amateur pop, c'est d'éviter la faute de goût. Et tu dis, c'est peut-être, j'ose pas le dire, mais c'est peut-être moins un jugement esthétique qu'un jugement épistémologique et éthique. Et du coup, c'est vrai qu'on... On veut parler d'art, mais dès qu'on est dans la pop, on est aussi dans quelque chose qui va se prêter à, donc comme tu dis, est-ce que c'est authentique, pas authentique, et toutes les figures que tu déclines, mais qui sont au fond des questions, tellement larges qu'on aurait du mal juste à se dire par l'aspect artistique.
En fait. Oui, alors ensuite, c'est, d'abord sur la mise à distance de la sociologie, je suis d'accord, il y a aussi là encore un geste stratégique dans la mesure où j'avais tout simplement conscience que je ne pouvais pas convoquer toute la sociologie qui s'est écrite sur cette musique, et qu'en gros, j'étais tout simplement écrasée par le corpus, sans possibilité de dire quoi que ce soit avant d'avoir dit alors les modes à Londres de 1977, plutôt avant. Mais bon, bref, y a ce geste stratégique de dire ok, le sociologue là-bas, on t'a assez entendu. Je ne peux évidemment pas concevoir que la culture n'intervient pas, et pour moi elle intervient même de façon massive dans le moment où je m'interroge sur ce que j'appelle l'utopie de la popularité, c'est-à-dire un certain idéal de réconciliation, d'universalité de la musique, d'une musique qui serait immédiate et en même temps pertinente, démocratique, signifiante. Et ça, c'est un idéal qui est ultra déterminé, à la fois anthropologiquement, mais aussi culturellement. C'est très lumière occidentale, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du... c'est pas de la franc-maçonnerie, mais enfin, je parle beaucoup de la flûte enchantée de Mozart, et voilà, c'est très idéologique au fond. Enfin, donc, je ne nie pas qu'il y a un poids, et c'est ce que j'appelle dans le livre la qualification esthétique, ce que je dis, il y a la forme artistique, c'est-à-dire le moment ontologique, c'est l'enregistrement, et la qualification esthétique, pour moi, esthétique, je reste adornienne de ce point de vue-là, c'est pas l'esthétique est jamais totalement autonome, quoi. C'est l'esthétique, elle embrasse des déterminations anthropologiques, des déterminations culturelles, et donc la question de l'authenticité. Donc, j'ai tout à fait conscience et c'est que ce livre, il est lui-même situé culturellement et sociologiquement, quoi. Mais que je crois qu'une large partie de la pop telle qu'on l'a connue, en tout cas au XXe siècle, a œuvré à l'intérieur de ce schéma, mais que ça peut tout à fait changer. Et donc la sociologie, en effet, je pouvais pas trop l'inviter parce que
moi je t'en veux pas
j'aurais été écrasée en fait par sa perspective, pas seulement par ses données mais par sa perspective. J'avais besoin d'une forme de surplomb mais qui laisse la musique possible quand même, et voilà.
non je comprends, il y a des chapitres mais vraiment qui sont très pour le coup, esthétique ou musicologique. Et effectivement, après, il y a les discussions plutôt sur l'authenticité. Et tu passes, j'allais dire, forcément aussi par des questions qui sont très contemporaines, donc notamment celle de l'appropriation culturelle. Parce qu'il y a quand même toute la fin, je ne sais plus de quel chapitre, mais... le paradoxe du hillbilly, c'est ça. Et effectivement, là, alors tu dis quelque chose d'intéressant, parce que moi, je m'attendais un petit peu à une réponse... C'est une question un petit peu brûlante, surtout comme tu l'as dit, parce que cet art musical emprunte à d'autres musiques. Et évidemment, ta réponse, elle est dure, elle est pessimiste. Elle est de dire, jamais on ne pourra rembourser la dette qu'on doit à ceux à qui on a emprunté. Mais nécessairement, on doit emprunter. Donc, ce qui veut dire que jamais, en fait, les Beatles pourront rembourser la dette qu'ils doivent aux blues, etc. Ou alors, comme tu le dis plus loin, le hit contemporain ne pourra jamais rembourser ce qu'il doit, par exemple, aux... pas au reggae, mais j'ai oublié, aux techniques d'enregistrement dont parle John Seabrook.
Le rythme,
c'est ça. Et donc, finalement, on avance quand même dans un domaine éthique où on est toujours plus endetté et apparemment, ça n'arrêtera jamais. C'est ça, quand même, le paradoxe. Est-ce que cette réponse, toi, t'as, comment dire, pas désespéré, mais t'as plongé dans une abîme de sidération parce que. On est mal parti.
Ouais. Voilà. Non, c'est pas. Alors comment dire. C'est pas parce que il y a une conscience de la dette que. Enfin, qu'il y a. C'est pas parce qu'il y a une dette que c'est désespéré. Je crois que la compensation de la dette, c'est toujours la connaissance. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je parle de Graceland et de comment ça s'appelle. C'est quoi son prénom, Simon? Paul Simon. et de Paul Simon, de ce moment voilà, où il va emprunter des comptines comme ça d'Afrique du Sud et que bon, il fait un album qui est reconnu comme un chef-d'œuvre dans l'histoire de la pop à partir de ça. Et donc il y a la dette juridique, si tu veux, le fait que on va pouvoir dire bon bah, là il a pas noté, il a pas crédité ces gens-là. Donc ça, il peut le compenser, bien sûr, il peut créditer les gens. Mais à la limite, la véritable compensation, ça serait de faire connaître cette musique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas désespéré à l'échelle de la pop. C'est qu'en fait, là, la pop n'est que le reflet des rapports de domination historiques qui, oui, sont incompensables. Enfin, donc là, aujourd'hui, on en arrive à des cas assez extrêmes. Il y a un groupe anglais dont j'ai oublié le nom, là, mais qui a dû retirer de la vente un album qui était sorti où il samplait l'hymne indien. Or, il y a une communauté indienne, anglo-indienne, quoi, qui a fait.
C'est parce qu'il n'était pas indien, c'est ça.
Voilà.
Parce que Asian Dub Foundation aurait pu faire un truc pareil.
Exactement. Ouais. Donc, évidemment, on en arrive à des débats qui sont terribles parce que les types sont obligés de retirer leurs morceaux. Et pourquoi ? Parce que ça se passe en Angleterre, c'est-à-dire un pays qui a colonisé l'Inde. Enfin, je veux dire, c'est, en fait, ça n'est que le reflet d'un rapport de domination historique qui s'est joué par ailleurs. Et donc, la musique, là, elle cristallise quelque chose qui, dont elle n'est pas à la source de quoi, elle n'est pas vraiment, en fait.
Mais dont elle ne peut pas avoir la réponse non plus.
Elle ne peut pas, non, elle ne peut pas résoudre. Mais ça n'empêche pas la musique d'être belle, ou ça n'empêche pas les emprunts d'être parfois, d'être sublimes. Mais on aurait envie que ça soit toujours un... Quand il y avait le divan occidental, oriental de Goethe, je ne sais pas, quand on pense à... Yellow Magic Orchestra, c'est l'idéal là pour nous parce qu'on se dit voilà, eux ils ont piqué à l'Europe quoi, ouais. Et donc on est content parce qu'enfin ça va dans l'autre sens quoi. Ou quand on se dit les rappeurs américains ont piqué des trucs à Kraftwerk, que les inventeurs de la techno de Détroit ont piqué à Kraftwerk, voilà, enfin ça circule autrement.
Mais non, parce que moi me revient un très mauvais emprunt vraiment bien honteux de Deep Forest, je sais pas si
oui, oui.
Avec une petite comptine qui avait été récupérée sur un enregistrement anthropo. Et écoute ça par exemple, au fond, est-ce qu'on peut l'écouter en même, est-ce qu'on peut pas avoir une réaction immédiatement éthique, tu vois, comme tu dis, une faute de goût qui, on a presque envie de la sortir de la pop musique, même si c'est un art musical, comme tu dis, qui suppose que Deep Forest fasse effectivement de la pop. Il y a tout de suite une question en même temps de, comment dire, d'adhésion ou non. Et c'est pour ça que, tu vois, en fait, c'était mon autre question, c'est si c'est un art musical, est-ce qu'on peut aimer cet art musical globalement, la pop? Alors qu'au fond, j'ai l'impression que tout de suite, quand on présente de la pop, on est dit, vous aimez ou vous aimez pas. Et que la valeur, en fait, du morceau est immédiatement questionnée. On n'est pas juste en train de recevoir un enregistrement dont on est en train de se demander... quelle est sa condition de possibilité esthétique, etc. J'ai l'impression que tout de suite, on nous dit, mais est-ce que vous adhérez ou non? Et c'est pour ça qu'au fond, c'était mon autre question, mais qu'est-ce que ça fait que d'aimer de la pop?
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai essayé de faire un essai d'esthétique qui ne soit pas un tribunal esthétique. Donc, il y avait vraiment ce truc de résister à... C'est pas parce que je cite Adorno que je dois produire ce que produit Adorno, en l'occurrence en musique. C'est un tribunal esthétique où, en gros, on condamne Stravinsky, on défend Schoenberg. Bon, c'est grossier, mais c'est un peu aussi son texte le plus grossier, enfin, si je puis dire, si je peux employer ce terme, philosophie de la nouvelle musique. Mais, donc, je voulais surtout pas produire... En tout cas, éviter de le faire, parce que je le fais peut-être malgré moi, puisque mes goûts affleurent dans le livre. Mais je ne voulais pas dire, ouais, regardez, ça c'est vraiment nul, on voit que Madonna, c'est vraiment de la merde. Donc il me semble que, au début, il y avait des moments où j'avais rédigé des trucs un peu comme ça, avec des critiques, et c'était le moment les plus faibles. Je sentais que ça affaiblissait. Et donc... L'idée, c'est pas de dire j'aime cet art, même si d'une certaine manière je finis par avoir une affection pour les possibilités qu'offre cet art, évidemment, et de toute évidence. Mais ça n'empêche pas au sein de cet art de trouver qu'il y a des choses réussies et des choses ratées, qu'il y a des choses kitsch et des choses magnifiques. C'est comme si on disait j'aime la peinture, mais donc tout est beau en peinture. En peinture, il y a des croûtes et puis il y a des choses qui vont nous émouvoir plus que tout. Donc,
c'est vrai, mais pour continuer sur ce que disait Charles.
Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Alors, moi, ce que j'entendais dans ta question, c'était il y a un fait que tu décris très bien avec les hooks particulièrement, c'est que la pop demande que tu l'aimes immédiatement. Elle est construite là-dessus beaucoup plus qu'une peinture ou un autre type d'art. Donc finalement, fonctionnellement et de son statut, c'est ce que je comprends, c'est elle impose un jugement. C'est choisis ton camp tout de suite, parce que de toute façon, je suis faite pour que tu choisisses un petit peu.
Alors, je dirais pas ça, je parle d'accroche. Il me semble que la question, c'est pas tant... en tout cas, si on se place vraiment dans le registre du hit, et donc de cette musique qui est vraiment là pour... séduire instantanément l'auditeur.
Oui, les autres aussi, dans leur idéal un peu. Ou pas, vas-y.
Je crois que c'est plutôt de l'ordre de la Enfin, je compare un moment avec l'appel téléphonique. La question, c'est pas de savoir si vous allez aimer la voix qui vous parle, c'est vraiment de décrocher. Enfin, décrocher au sens accrocher, c'est décrocher, c'est dire allô, quoi. Quand Steve Wonder dit I just called to say I love you, bon, il laisse un message au répondeur d'ailleurs, parce que sinon il n'y a pas de chanson. Donc il ne faut pas décrocher, mais bon, bref, je sens que ma métaphore est compliquée. Mais je crois qu'il est très classique aussi de faire l'expérience de Hit, que dans un premier temps, nous n'aimons pas tant que ça. Et qui finissent par. Voilà, du coup, si on parle d'amour, parce que là c'est assez vague, hein, mais en tout cas d'un goût qui serait porté à voilà, un attachement, hein, forme, parce que du coup il y aurait différentes formes d'amour, une séduction, un attachement. Mais il me semble que d'abord c'est de la convocation, c'est de l'appel, quoi, c'est-à-dire écoute, quoi. La première demande du morceau pop, c'est écoute-moi, quoi. Donc c'est pas aime-moi, c'est écoute-moi et bientôt tu vas plus pouvoir te passer de moi. Voilà. Et aimer, je pense que, enfin voilà, on a tous une expérience de cette musique où on a parfois des morceaux dans la tête qu'on n'aime pas. Donc je crois que il y a vraiment une expérience très très engagée, très neuronalement engagée dans la musique populaire enregistrée qui précède. La question de savoir si en fait on adhère ou pas, c'est elle qui nous colle, c'est elle qui adhère. Il y a la chanson d'Édith Piaf, ce petit air qui m'a reconnu. Enfin, il y a un moment, c'est ce petit air qui lui veut me coller, quoi, adhérer à moi, non, mais à mon cerveau.
Je comprends ce que tu dis, et en même temps, c'est vrai que dans mon expérience, mais alors. C'est plus subjectif, mais au fond, toute la dimension, tu sais, du fan, je suis fan d'eux, j'aime, et j'aime intensément, parce qu'au fond, on attend une réaction. Alors, on peut être indifférent, mais au fond, c'est parce que c'est un échec. Si tu es indifférent à ce vide, c'est peut-être un échec, mais tu dois, au fur et à mesure, quasiment adopter une posture de fanatisme, enfin, aimer jusqu'à plus soif. Mais écoute, c'est juste mon avis. Hein. Mais non, et j'avais juste une dernière question, alors là, vraiment, qui n'a plus rien à voir du tout. Mais peut-être que tu sais, et je voulais savoir si tu l'avais lu. Tu sais, Michel Berger a écrit sa maîtrise de philosophie.
Ouais,
exactement.
Ouais.
Esthétique de la musique pop.
Ouais.
Et je vais savoir.
Et non, je l'ai pas lu, mais voilà, j'ai entendu dans l'émission qui était consacrée à Michel Berger. Mais oui,
moi, j'attends de savoir si quelqu'un l'a lu. Non,
c'est tout. Ouais. Bon, en fait, c'est dialectique de la pop. J'ai tout compris à Michel Berger.
Vrai, on voudrait savoir.
Mais sur le fan, je crois que
c'est effectivement une figure plus sociologique.
Oui, c'est une figure qui est importante parce que je pense que si on se réfère à ce que je décris comme la catégorie esthétique de la popularité, avec cette utopie comme ça, où la popularité vraie, ce serait le fait que tout le monde comprenne et aime une musique qui a de la valeur, mais qui est en tant que musique, donc il n'y aurait pas besoin d'initiation à la vérité musicale. Et le fan, c'est un peu la figure qui réconcilie le sujet esthétique et le consommateur. C'est-à-dire, c'est celui qui va à la fois acheter, rendre populaire au sens de célèbre, parce qu'il va, il va payer de sa poche et de son affection et de son amour. Et en même temps, c'est un sujet esthétique parce que c'est un amateur. C'est quand même quelqu'un qui... je résume un peu ça par la phrase qui était en tête en couverture d'un best-of de Elvis Presley, qui dit 500 millions de fans... 500 million fans, ça can't be wrong. 500 millions de femmes, de fans ne peuvent avoir tort. Ouais. Et si les fans ne peuvent avoir tort, ça veut dire que c'est pas que des consommateurs, ça veut dire qu'ils ont raison au sens esthétique du terme. Ouais. Et donc le fan, c'est, je crois que c'est une figure qui est évidemment très importante. Mais on n'est pas obligé non plus de considérer que tout fan est une groupie. Enfin, je veux dire, on peut. Enfin, je sais pas. Moi, je me sens complètement fan de Robert Wyatt, et pourtant, enfin voilà, j'ai un rapport qui est du coup quand même hyper réflexif au truc, mais ben, en même temps, émotif.
Il y avait des groupies aussi.
Voilà. Bon.
Aussi folle que d'autres. Non, mais en fait, moi, ce qui m'amuse, c'est que tu vois, dans la forme brisée, puisque c'est ça quand même. Et en le lisant, on a envie, à un moment aussi, nous, de choisir un camp. Tu vois, parce que parfois, on bascule d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et j'ai l'impression qu'au fond, pas le fan, mais alors, ok. L'auditeur, disons moyen, veut croire en quelque chose. Alors c'est pour ça que tu parles souvent d'ailleurs de cette utopie, de réconciliation, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est aussi mis dans une position où on est engagé à croire. Et au fond, donc c'est pour ça que c'est plus qu'esthétique, au sens où j'aime, ça me plaît ou j'aime pas. C'est que je suis prêt à être embarqué avec donc celui qui me chante, je sais pas quel monde. Et cette dimension de croyance, en fait, c'est pour ça que le fan, évidemment, en fait, fait écho à cette dimension de croyance, mais elle est quasiment, je la trouve presque suggérée par cette forme brisée. Parce qu'on ne peut pas juste rester brisé nous-mêmes. On comprend que la forme est brisée, mais l'auditeur a envie de...
Mais les œuvres, tu vois, pour moi, il y a vraiment une différence entre réfléchir sur l'art musical comme totalité et les œuvres. Après, bien sûr que les œuvres, je ne vais pas te dire que, voilà, Tanz van Zandt, il y a des matins, je me réveille, je l'adore, et puis d'autres, je me dis, non, c'est quand même assez inauthentique. Non, je l'aime vraiment, j'y crois. Donc, effectivement, à l'échelle d'un artiste ou d'un album, je ne suis pas dans ce déséquilibre dialectique permanent. À la limite, je me ressens plus que dans ce déséquilibre dialectique permanent en tant qu'artiste, moi-même. Mais pas en tant que fan. La forme brisée de la pop, c'est pas la forme brisée de toutes les œuvres pop, ou du moins c'est pas mon rapport brisé à toutes les œuvres.
Oui, c'est ça, voilà.
Tu vois, donc on peut, je peux tout à fait imaginer et faire l'expérience d'une adhésion, comme tu dis. Et juste pour revenir sur cette histoire de croyance, pardon, mais je crois que en effet c'est quelque chose, une chose sur laquelle j'ai voulu insister dans le livre, le rôle de l'incarnation. Je parlais tout à l'heure des voix et je crois qu'il y a cette phrase que je cite à un moment de Johnny Sonic Smith du MC5 qui dit « Music is what you are » et il y a vraiment ça, c'est quelque chose qui s'exprime absolument dans l'art musical pop où, en effet, ce que tu es au sens à la fois de ta particularité ethnique, sociologique, mais aussi religieuse, mais aussi singulière, donc non plus seulement particulière, mais individuelle, idiosyncrasique, ce que tu es à ce moment-là avec ta voix brisée ou ton bras en moins, j'en sais rien, ton âge, le fait que tu viens de te faire larguer, enfin, y a vraiment toutes ces déterminations-là, c'est vraiment une musique qui recueille ça absolument. Alors qu'on sent que, bon, que Mozart était blanc, c'est évidemment que ça compte sociologiquement et que ça compte dans ses compositions, mais on sent que c'est pas sa blancheur qui met dans qui met dans ses compositions, alors que la pop, voilà, c'est toute l'histoire de Nina Simone, quoi, qui voulait être une grande concertiste classique et qui est devenue, voilà, un génie de la pop en est incarné comme Nina Simone, comme cette personne caractérielle, très ayant été initiée à la musique savante, mais ayant été refusée au sein du giron institutionnel de cette musique savante, femme noire à telle époque, telle physique, tout ça, ça joue dans sa musique, et c'est à ça qu'on croit, je crois, ou qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est à ces types d'individus qui jaillissent dans la musique, c'est que au fond, quand on rejette une musique, c'est comme un individu qui nous fait une première mauvaise impression, quoi. C'est genre, ah non, il a l'air pervers, il a l'air con, bah, j'ai pas... Ouais. C'est celui qui écoute PNL, le premier, il y en a un qui va dire oh, ils ont l'air vraiment débiles, je peux pas. Parce que je peux pas supporter cette personne, en fait. C'est la personne dans la musique, et comme tu dis, la vision du monde aussi.
Mais alors, tiens, justement, est-ce que le fait de, par exemple, mieux connaître la forme pop pourrait autoriser le lecteur à aimer PNL, d'après toi ? Est-ce qu'au fond, est-ce que ce livre permet d'aimer PNL ? Est-ce qu'on va moins se dire, je sais pas, moi j'aime modérément, mais est-ce que je pourrais mieux aimer PNL, grâce...
Bah, je peux avoir des arguments dans le livre. Moi, par exemple, je sais qu'on a des débats avec Tristan, mon compagnon, sur ça, parce que lui, pas du tout. Et moi, j'ai justement leur façon, par exemple, de cette espèce de langage. Enfin, j'avais écrit un texte, on me semble, qui disait que c'est le moment où le français devient une espèce de langue étrangère. Enfin, en effet, ça produit quelque chose de musical, ça produit en tout cas, de toute évidence, quelque chose d'expressif. Et voilà, leur façon de dire les mots loyaux, mais c'est complètement addictif, quoi. Enfin, je veux dire, bon, pas pour tout le monde, encore heureux, parce que voilà, mais on a affaire à quelque chose d'idiosyncrasique. Et de ce point de vue-là, Il y a des arguments dans ce livre, mais je pense qu'on n'a pas besoin de lire le livre pour aimer ou pas aimer.
On peut peut-être
utiliser le livre pour comprendre qu'il y a une forme de... qu'en tout cas, comment dire, c'est pas légitime, mais c'est... qu'on a bien affaire à quelque chose de l'ordre de la musique populaire dans ses œuvres. Quoi.
Ouais, il y a une question qui se rattache directement à ça, c'est effectivement, tu prends l'exemple de la lettre de Mozart à propos de la flûte enchantée.
C'est pas à propos de la flûte enchantée.
Mais qui dit effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça va ravir les connaisseurs et puis les autres aussi. Mais alors, ça serait quoi? Et là, tu parlais d'expressivité et d'idiosyncrasie, mais justement, c'est quoi cette valeur qu'il pourrait y avoir dans une chanson pop? Et qui ferait que tu pourrais te dire, c'est mainstream, c'est super, mais en plus, ça a de la valeur. Et là, vous commenciez à en parler un petit peu. Donc, est-ce que ce qui a de la valeur, c'est tout ce qui est expressif? Est-ce qu'il suffit que ce soit expressif pour que ça ait de la valeur dans la pop? Ou est-ce qu'il faudrait chercher ailleurs? Et quoi, exactement? Tu vois?
Il y a une phrase de John Fay, que je cite à la fin du livre. John Fay, qui est un guitariste américain, mélange de clochard universitaire, enfin, une figure... Que tous les snobs adorent, bien sûr, mais qui a un jeu de guitare fantastique, très très idiosyncratique pour le coup. Et il dit What is popular music? À un moment, il dit c'est a little blip, c'est-à-dire c'est une petite déviation, c'est cette façon d'introduire une petite déviation dans ce qui se joue. Donc c'est juste à un moment cette petite chose qui va faire que c'est différent. Et à la fin, je crois que moi, en tout cas, je prétends pas parler universellement de ce point de vue-là, mais il me semble qu'à l'issue de ce livre, ça me rend, mon amour pour le coup de la forme pop dans sa globalité, c'est ça, c'est que l'enregistrement a permis cette capture, cette fixation de petites déviations. Et derrière ça, je crois qu'il y a un amour de l'humanité en fait, qui peut devenir inhumaine, animale ou robotique. Enfin, tout ça, la pop l'a énormément exploré et l'explore énormément. Mais je parle de cette scène dans 2001, l'Odyssée de l'espace, où Hall, l'ordinateur est débranché et en fait, il se met à chanter une chanson de Daisy. Et il n'a pas du tout une voix qui ressemble à une voix d'être humain, donc on n'est pas du tout dans l'imitation. Hein. Il chante très bas parce qu'on a l'idée que ses batteries comme ça sont de plus en plus fatiguées. Donc, voilà, des voix comme ça. Et il supplie avant ça, il supplie Dave de ne pas le débrancher. Et la dernière chose qu'il dit, c'est qu'il a été créé dans le Minnesota en 1947, je ne sais plus exactement. Et je trouve que là, on a quelque chose qui nous ramène à cette humanité, fut-elle totalement projetée, en fait. Parce qu'on a une finitude. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, là, elle se met à émouvoir parce qu'elle dit qu'elle a un début et une fin, en fait. Elle est en train de s'éteindre et elle raconte comment elle est née, quoi. Et c'est pas pour rien qu'à ce moment-là, elle chante une chanson. Et je crois qu'on pourra très bien un jour être fan d'un morceau produit par une intelligence artificielle, pourvu que cette intelligence artificielle, parce qu'il y en a plein, hein, des morceaux produits comme ça par pure émulation, et tout le monde dit « Ah ouais, pas mal, ah ouais, il a piqué ce truc à Prince, ça marche super et tout », mais en fait, personne n'est fan du morceau, on peut juste être un peu analytique. Mais je pense que ça arrivera au moment où on aura peut-être un ordinateur, ou en tout cas une expressivité qui va arriver à signifier une individualité en tant que finitude, c'est-à-dire quelque chose qui commence et finit, quelque chose qui, justement, n'a pas tout sous contrôle, comme un algorithme tout-puissant, mais une sorte d'algorithme faible. Je crois que un algorithme un peu limité pourrait finir par ressembler à l'humain et pourrait finir par produire un tube, parce que pouvoir en effet projeter cette humanité qui, je crois, est au cœur de notre croyance dans la musique pop, au cœur de, et même dans la musique électronique la plus où le sujet, enfin la voix en tout cas, est très en retrait. Enfin, il me semble que voilà, c'est cette c'est la dernière des dernières déterminations, pour moi, c'est cette petite déviation qui est le propre de quelque chose, c'est-à-dire en tant qu'il est une chose et pas autre chose. Et ça, l'enregistrement qui le fixe a permis de l'isoler et d'en faire un objet de contemplation, un objet d'émotion et, disons-le, un objet d'empathie. Mais là, tu me pousses vraiment.
Mais oui, mais parce que toi, tu fais pas de la musique avec des blips. Enfin, quand tu, si je prends le sens inverse, toi, l'artiste qui va produire quelque chose de valeur, est-ce que c'est du blip étendu au morceau? Est-ce qu'il développe une petite logique du blip? Sans doute pas. Peut-être tu peux me dire, mais après en fait chaque genre à l'intérieur de la forme pop a ses systèmes de valeurs, ses propres codes qu'elle détourne, etc. Et ça, c'est ce qui fait la valeur du genre, mais pas de la forme pop.
Ben, si tu veux, le blip, il opère quand même à tous les niveaux, parce que on sait tous qu'il y a des musiques parfois qui sont insupportables à écouter parce que c'est des successions de plans. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est ce type de solo guitare, mais qui a déjà été fait et que les mecs font très bien, mais en fait rien n'a lieu, quoi. Et je crois que c'est le blip, enfin je sais pas si on prend des grands guitaristes, toi qui as travaillé sur le son de guitare et sur la distorsion, il y a aussi cette recherche, et notamment cette recherche de l'accident d'une façon de le faire qui, c'est pas tant qu'elle est plus virtuose qu'une autre, mais c'est que, tout à coup, elle exprime quelque chose qui n'était pas inclus clé en main dans le plan, quoi. Je crois que, je parlais de Prince tout à l'heure, on a affaire là, c'est un excellent compositeur, c'est quelqu'un qui joue de tous les instruments qu'il enregistre, donc bien sûr qu'il y a du métier et du savoir-faire chez Prince, mais à un moment, voilà, ce qui est Le blip, c'est aussi dans son mode de création, dans cette espèce de voix qui est quand même un mélange de voix extrêmement efféminée ou de canard, enfin, on ne sait pas trop entre une femme et un canard, mais en même temps d'une capacité vocale qui est virtuose aussi chez Prince. Mais où je parlais de Robert Wyatt tout à l'heure, qui chante à peu près tout le temps faux, qui compose, enfin moi j'aime beaucoup toute la période de Rotenat, c'est rien n'est droit, quoi. Mmh. Et c'est ça que j'aime, je sais que c'est ça que j'aime.
Mais par exemple, tu vois, tu parles des Shags aussi à un moment donné dans le livre. Les Shags, donc le groupe, on va dire, monté de toutes pièces par un père, qui veut à tout prix réussir avec ses filles, c'est très. Parce que moi, je l'ai écouté au moment où tu en parles, toi. Ouais. Je me suis dit, ok, je vais le réécouter. Mais en fait, je ne tiens pas 2 minutes. C'est vrai que c'est très. Faut un
blip. It's Halloween.
Non, même rythmiquement, c'est très difficile.
C'est difficile.
Ah ouais, non, mais.
Tiens, et Frank Zappa disait que c'était meilleur que les Beatles.
Ouais, je sais.
C'est vraiment un snob.
Ouais. Mais non, mais c'est marrant, parce qu'effectivement, le blip, on a l'impression qu'il faudrait une petite quantité. Il y a comme un dosage en même temps. Ouais. Du blip. Et moi, au fond, je
alors, blip, ça ne veut pas forcément dire défaut. Mais
oui, non, c'est une sorte de particularisme. Oui. Mais au fond, j'ai l'impression qu'il nous oblige aussi à construire une image donc, de ce que la personne serait, et donc d'une identité, puisque tu l'as dit aussi dans le livre, on ne peut pas avancer sur scène sans tout de suite devenir une identité. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est ça, au fond, que le blip révèle. C'est le petit moment où on se dit, ah oui, s'il chante comme ça, c'est parce que peut-être qu'il est bisexuel, Prince. Et là, on construit donc, tout un fantasme qu'on aura.
Ou peut-être que c'est un extraterrestre. Ouais. Moi, j'ai plutôt cette hypothèse. Le nain de Minneapolis.
Tu vois, c'est au fond, on y revient un petit peu à cette question d'identité dont on avait parlé.
Tout à fait. On revient à l'individualité, fût-ce celle de quelque chose qui n'est pas vraiment humain, ou bizarrement humain. Mais je crois que même dans des énormes tubes, quel tube on pourrait citer aujourd'hui, mais. Enfin, je parle de Diamond de Rihanna, mais qui commence à dater. Hein, mais il me semble que Rihanna, elle a de fait une façon de chanter absolument singulière, une façon et sa voix, elle est produite d'une manière qui provoque quand même ce sentiment d'une chose qui n'a pas été entendue jusque-là, même si il y a une histoire de la musique extrêmement chargée derrière et que C'est moi, en effet, la pop que je déteste, et c'est une chose que je me suis jamais autorisée à dire, mais c'est ce que, celle que j'aime pas, c'est celle qui me semble servir des plans, quoi. C'est-à-dire quand c'est comme quand la rationalisation dépasse l'expression. C'est pas vraiment un groupe, tu vois, parce qu'en fait, dès que je creuse dans un groupe... Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple ?
Ceci dit...
Et j'en ai pas...
dans le bouquin, et en reprenant Sichor sur la fabrique du 8, tu montres aussi que la production de l'expression, elle peut être extrêmement rationalisée.
Ouais.
C'est-à-dire que tu es une espèce de camp de production de singularité.
Voilà.
C'est logique, c'est une espèce d'usine à hasard, donc à un moment tu tombes sur quelque chose. Mais effectivement, ça c'est, comment dire, c'est une usine à produire de la singularité.
Oui,
donc c'est difficile de faire le départ, du coup, entre ce qui sonne comme et ce qu'il est vraiment. Mais bon, ça fait partie de la forme brisée, j'imagine.
Oui, mais alors...
Parce que là, en fait, on se rend compte, dans ta façon de poser la question, que tu voudrais que je pense que ce... Non, mais que ces gens sont sincères. Mais je crois que je m'en fiche, en fait. C'est pas grave pour moi si en fait Rihanna a jamais chanté comme elle chante dans la chanson. Ce qui compte, c'est que la façon dont elle chante dans la chanson produit une figure d'individualité qui, elle...
D'accord, donc quand tu dis il faut pas que ça sente, c'est un jugement esthétique et pas du tout un jugement catégorique sur la réalité de la chose, quoi.
Voilà, parce que en effet, ce que je dis dans le chapitre sur le hit, qui est une espèce de dialectique entre magie et rationalité, le fait qu'il y a un savoir-faire pour produire les hits aujourd'hui comme autrefois, c'est pas du tout nouveau, et que là, ça, on pousse le bouchon très très loin, puisque il y a une division du travail vraiment extrêmement poussée entre différents intervenants, mais qu'on a quand même besoin de ces moments de surprise, de non contrôlés, et qu'on fait donc chanter les top liners dans tous les sens. Bon, on a des heures et des heures d'impro, et on va couper dans les impros les moments où il se passe un truc. C'est typique d'une phrase de studio, ça. Ouais, non, mais là, il se passe un truc. On est vraiment là dans la magie, quoi, dans le romantisme d'une expression qui... On ne sait pas ce qui se passe. C'est au moment où on ne sait pas ce qui se passe qu'on va garder, la chose. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une question... La question n'est pas de savoir si l'individu est authentique derrière ou s'il a réellement chanté comme ça derrière, parce que ça, toute l'histoire de la pop... La détruit, cette image d'authenticité, même si là aussi on pourrait être dialectique et avoir plein d'exemples, au fond c'est une lutte contre la norme et la normalisation. Or la pop en tant que musique populaire, au sens où elle est largement diffusée, a un immense pouvoir normatif, et c'est ça la dialectique de la pop aussi pour moi, c'est comment à l'intérieur de cette forme, on essaie de trouver des moyens de déjouer la norme des individus démocratiques. Et la voix est un vecteur de normes. Je parle à un moment du fait qu'il y avait cette vague de vocal fry en Amérique, qui existe toujours, mais le fait de parler « you know, piano ». Et ça s'est retrouvé dans les choses. Parce que... dans l'article que je cite, c'était supposément emprunté à la façon de chanter de Britney Spears. Donc Britney Spears aurait poussé les jeunes filles à se mettre à parler comme ça, avec cette voix de gorge, cette voix brisée, très problématique sur un plan phoniatrique. très douloureuse, en fait, pas du tout recommandée. Comme les images, les sons produisent des normes. Et donc, si la pop est un art et pas simplement un vecteur de normes, c'est aussi l'art d'instiller comme ça des moments de déviance par rapport à cette norme. Mais ça ne veut pas dire que je pense que le rock est la chose la plus déviante aujourd'hui. Je sais aussi que les déviances ont une histoire et qu'elles, les déviations, je ne sais pas comment l'exprimer, et qu'elles-mêmes, elles périment. D'un moment, ça s'universalise aussi et ça devient une nouvelle norme. Donc la voix de Rihanna, à un moment, c'est quelque chose de nouveau, mais à un moment aussi, ça devient le code que tout le monde reproduit. Et c'est là qu'il faut, qu'on a besoin d'une nouvelle individualité.
Alors, bon, il va être temps bientôt de laisser... J'avais une dernière question avant de, peut-être de laisser la parole un peu au public. Mais c'est tout à fait personnel, c'est sur alors l'absence d'un genre qui n'est pas simplement absent comme ça, parce qu'il y a plein de choses dont tu n'as pas pu parler par définition, mais donc voilà, dans la manière dont tu décris et penses tout ça, on a l'impression que sans forcément parler de conscience, il y a quelque chose comme une réflexivité qui est toujours plus ou moins présente, ou en tout cas que, voilà, dans la pop. Et je pense à un genre qui souvent n'est pas extrêmement réflexif, qui est le rock, quand il tire vers le hard rock ou tout ça, et qui est aussi un genre qui n'est pas à ma... Alors j'ai ma lecture, je ne crois pas qu'à un moment tu parles de hard rock dans mon souvenir. Bon, voilà. Bon, peu importe en soi.
Ouais, mais... Tu parles des Divan Allen quand même.
Oui, ouais, pour la production de Distorsion, absolument. Ouais, ouais.
Mais, et pour les idiosyncrasies, oui, ouais, ouais.
Mais alors tu en parles en tant que, effectivement, en tant que guitariste qui effectivement éruptif. Mais à propos du genre, au fond des genres qui sont un peu plus premier degré, enfin je pense à Led Zepp, où il est beaucoup question du Seigneur des Anneaux, ou ces genres de choses qui sont pas très réflexives ni très tu leur fais une place particulière, est-ce qu'ils incarnent quelque chose de particulier? Alors d'un point de vue sociologique et des gender studies, c'est assez clair ce qu'ils incarnent, c'est le cock rock, c'est le mâle blanc, tout ça, voilà. Mais est-ce que tu leur fais une place dans ta réflexion?
Ce qui n'est pas, je suis très amatrice de hard rock, et puis de Led Zepp absolument, et puis de Black Sabbath, enfin je veux dire, c'est d'ailleurs des morceaux que j'ai souvent en tête, à la fois comme musicienne, même si ça peut paraître une musique assez éloignée ce que je fais, mais voilà, j'ai le No Quarter régulièrement dans la tête, bon, donc de toute manière je les ai en tête, ces musiques-là, et c'était un des écueils que je voulais absolument éviter dans le livre, c'était de dire, comme je vais écrire un livre de philosophie sur la pop, je vais parler de la pop la plus philosophique. Donc en gros, je vais parler que de Frank Zappa ou des Shags, ou de John Zorn, et de la musique électronique la plus réflexive de Brian Eno à Autechre. Je pense que c'est pas parce que je peux dire ce que je dis d'une musique comme tu dis premier degré que ça la concerne pas. C'est pas parce que il peut y avoir un énoncé philosophique sur cette musique premier degré sans que cette musique premier degré ait besoin de prendre en charge cet énoncé philosophique. Et donc je crois que voilà ce que je dis, ce que je dis par exemple du sujet pop, de l'incarnation, ça marche, je pense, alors peut-être pas, mais je pense que ça marche avec le hard rock. Après, je ne fais pas une sociologie, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits sur la sociologie de cette musique, la sociologie blanche, mais aussi les emprunts largement aujourd'hui quand même identifiés au blues, chez Led Zepp notamment. Alors là, pas mal d'appropriations, il y a un sacré dossier. Donc pour moi... Alors, ça fait complètement partie du corpus, quoi.
D'accord,
si tu veux. C'est pas du tout exclu.
Je pense pas que c'est exclu, hein, mais effectivement, c'est...
Pour moi, ça illustre ce que je dis de... Qu'est-ce que... Toute la dialectique du paradoxe du hillbilly, justement,
l'histoire aussi pour le blues, ouais.
Voilà, la contradiction entre... l'authenticité et... c'est pas le bon exemple ici, mais... déjà il y a cette question d'incarnation, mais aussi il y a cette question du progrès, parce que l'évolution du hard rock justement vers des musiques un peu plus réflexives, en l'occurrence je sais pas, Sonneau, tu vois, c'est des gens qui vont pouvoir citer Stephen O'Malley, il va citer Black Sabbath, mais il va aussi parler dans les écoles d'art de la texture de son son de guitare, et donc du son, du pur son. Donc là on a une histoire, en l'occurrence, qui rend cette supposée innocence de départ extrêmement réflexive aujourd'hui. La plupart des amateurs de musique, doom ou metal, de métal sont des universitaires aujourd'hui. C'est hyper intellectualisé comme musique. C'est pas la preuve, toi non, et moi. Non, mais après, c'est...
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà, je crois que... Et donc, l'espèce de dialectique, par exemple, entre une authenticité brute, le lien aux racines, et une espèce de... En même temps, de fantasme du progrès, de l'innovation sonique, on la retrouve aussi... alors, peut-être pas dans le hard rock de Led Zeppelin, quoique, je crois qu'il... C'est quand même des contemporains de Pink Floyd.
Oui, non, mais je ne pense pas qu'ils échappent à plein de choses, hein, vraiment. Mais ça me semblait peut-être un tout petit peu moins évident dans leur cas à thématiser. Mais c'était une question.
Et puis il y a des hits. Enfin, là, c'est quand même le coup. Ah, puis y a des hits, le hit négatif par excellence qui est Stairway to Heaven. Quoi. Oui, c'est-à-dire, nous, on va faire un hit qui fait, je ne sais plus combien, 12 minutes.
Un peu moins, mais ouais.
Donc, je cite en disant c'est un des rares morceaux.
C'est les longs.
Voilà, qui a fait un tube à la radio en dépassant de beaucoup les 3 minutes, les supposées 3 minutes 30 requises. Donc, en revanche, toutes les références au monde du Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est, après, évidemment, les artistes vont chercher dans d'autres éléments de la culture, bien sûr, pour être inspirés musicalement.
Non, moi j'avais juste une dernière remarque, mais après quand même. C'était très rapidement en fait, j'avais l'impression que notamment tu prenais. C'est-à-dire que le diagnostic que fait Simon Reynolds sur la rétromania, sur l'hypermnésie de la culture actuelle, je me demande s'il ne pourrait pas être tempéré en réalité, parce que je vois bien qu'il y a un moment où on s'est dit avec Internet, tout le monde pourrait trouver n'importe quoi. Et en réalité, la pratique peut-être, et puis la distance qu'on a maintenant avec l'outil, nous fait peut-être comprendre que en fait on va trouver facilement ce qu'on cherchait, ce que tout le monde cherchait, mais moins facilement peut-être des choses, tu vois, qui auraient pu être moins connues. Et en l'occurrence, cette hypermnésie, je ne sais pas si elle est si forte que ça. Elle est importante d'ailleurs pour parler de réflexivité, puisque ça suppose que tu peux te situer dans l'histoire de la musique. Mais en réalité, donc moi juste dans les entonlivres, j'ai découvert plein de choses. Bon, quand même, il y a beaucoup de trucs à découvrir, tu vois. Et je me dis, en réalité, c'est pas non plus enseigner la pop. Et je me demande, franchement, dans l'avenir, tu vois, s'il n'y aura pas quand même une forme pas d'hypermnésie, mais plutôt d'amnésie et progressive. Et parce qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent très vite ringardes et qu'on n'a plus du tout envie de réécouter.
Ah oui, mais je pense que, en fait, cette espèce de... je ne sais pas si c'est une malédiction, mais ça commence avec l'enregistrement, parce que l'enregistrement, c'est déjà un moment d'externalisation de la mémoire. Mmh. Tu vois, c'est déjà quelque chose qu'on va pouvoir ranger, qui va pouvoir exister et être redécouvert, mais aussi être ignoré, ne pas être actualisé. C'est une puissance qui peut rester inactualisée, comme ça, 100 ans, jusqu'à ce que les bandes soient plus lisibles, quoi. Et en effet, les centres de mémoire Google, Dropbox ou que sais-je, c'est ça, c'est nos mémoires externalisées. Alors, il n'y a pas que des enregistrements musicaux, mais avec aussi tous ces enregistrements musicaux, on sait que voilà, sur SoundCloud contient plus de musique aujourd'hui qu'une personne pourrait en écouter durant toute sa vie. En écoutant que ça. donc, je suis bien d'accord avec toi. C'est un diagnostic très années 2000, début des années 2000, que fait Reynolds, qui est le diagnostic d'un critique qui était, lui, cette mémoire vivante, qui se vivait du moins comme cette mémoire vivante, et qui se rend compte que tout à coup, il y a des continents entiers de musique qui affleurent et qui coexistent, en fait, dans un présent comme ça. D'internet, qui est une drôle de notion du présent, mais qui font que voilà, à un moment les gens se mettent à reproduire des musiques en pouvant immédiatement les réécouter, en pouvant comparer immédiatement, essayer de reproduire le son de l'époque, parce que de toute manière on l'a sous la main là maintenant. Donc il y a cette possibilité de convocation, mais je suis tout à fait d'accord que dans la mesure où la mémoire ou l'hypermnésie est plutôt le fait d'un matériau technologique plutôt que d'une mémoire vivante humaine, ça bascule progressivement plutôt dans une logique d'amnésie, mais qui est aussi assez positive pour les compositeurs, parce que ça les soulage voilà, de ce poids de l'histoire et de ce sentiment qu'il n'y a rien de nouveau qui sonne. Quoi. Il y a rien de... Mais le problème, c'est que l'hypermnésie, elle est quand même présente, tu vois, dans le fait que... Enfin, je sais pas, moi, le prochain disque que je vais faire, j'ai commencé à faire les maquettes avec un iPad, et la plupart des sons et des petits synthés qui te sont proposés, oui, oui, c'est des émulations de vieux synthés. Oui. Donc il y a l'idée que... Alors maintenant, il y a quand même des instruments VST avec des sons différents, mais en fait, même les trucs les plus avancés, même les logiciels les plus avancés, faits par Native Instruments et tout ça... C'est des samples de sons qui ont déjà existé. Donc en fait, la matière, ton matériau même, est lui-même une mémoire de toute une histoire de la musique qui est déjà accumulée. Quoi. Donc, voilà, pour rompre avec cette hypermnésie, il faut prendre sa guitare en bois et puis peut-être la faire avec un autre matériau, justement, parce que le bois aussi, il a de la mémoire pour moi. Mais... Donc c'est ça qui est fou, quoi. C'est que dans l'instrument prêt à jouer, ce que j'appelle l'instrument prêt à jouer, il y a déjà une réification de mémoire. Il y a déjà de la mémoire sonique qui fait que l'humanité chantante réinvestit sans cesse des territoires sonores qui sont déjà sédimentés, quoi. Mais c'est pour ça que non, pas que...
Non, mais c'est dans ton parcours.
Ouais, il nous reste quelques minutes si vous avez des questions, et puis après on ira tous boire un verre plus tard.
Oui, il y a quelque chose qui me pose vraiment question dans votre définition de la musique pop. Vous parlez d'enregistrement tout au long de votre discours, c'est le terme enregistrement, enregistré, est revenu peut-être 50, 100 fois. Donc je suis premier aussi à vous enregistrer techniquement ce soir. Mais il m'apparaît a priori que intrinsèquement la musique existe aussi sans être enregistrée. Qu'est-ce que vous faites des concerts non enregistrés, des gens qui jouent sans être enregistrés?
Mais
elle n'existe pas, quoi, cette musique?
Ah, complètement qu'elle existe. Et c'est pour ça que... Si, mais je parle de pop et je parle pas de la musique, que de la musique. Et pour moi, c'est très important de dissocier. C'est pour ça que je dissocie musique et art musical. Ce que je veux dire, c'est que la musique, elle n'a pas attendu le XXe siècle ni l'enregistrement pour exister. Je veux dire, le chant, c'est la chose la plus ancienne. Les instruments, la flûte, on en trouve voilà, des millénaires. Il faudrait d'ailleurs que je sache exactement de quand date la première flûte qu'on a trouvée. Mais en tout cas, même le chant. Donc de toute évidence, l'expérience de la musique et de la musique que nous on appelle live aujourd'hui, mais on va revenir sur cette idée du live d'ailleurs, comme s'il fallait redire que c'était vivant, parce qu'en fait on a perdu entre-temps l'idée du vivant, donc c'est du vivant qui est reconquis sur l'enregistrement mort, peu importe, mais la musique, elle existe d'autres manières que de la manière musique populaire enregistrée. Et ça, je veux dire, je peux faire un concert avec des amis et jouer des chansons des Beatles et de Paul Simon à la guitare auprès du feu. Je jouerai leurs compositions. On pensera à la musique pop, on en parlera, on parlera d'albums. Mais c'est pas, je ne serai pas en train de... je ne serai pas au sein de cette pratique qui est celle de l'art musical pop en tant qu'il produit des œuvres pop qui sont des enregistrements de musique populaire. Et ce que je veux dire, c'est que la musique circule. C'est pour ça que la pop emprunte à des musiques qui ne sont pas des musiques populaires, que ce soit des musiques savantes ou des musiques extra-occidentales. Et que quand donc, pour venir à la question du live, ce qui est intéressant, c'est ne serait-ce le fait de penser que les Beatles, qui sont peut-être l'incarnation la plus absolue du groupe de pop au XXe siècle, hein, qui concentre énormément de ces paradoxes, justement, c'est un groupe qui a arrêté de jouer en live très vite. C'est un groupe qui n'existe, qui n'a de réalité en tant que producteur d'œuvres pop que par ses albums. Et on a aujourd'hui, par exemple, l'expérience de musique jouée live, où on envoie énormément de bandes préenregistrées. Et le chanteur devant vous exécute sa partie de chant, une performance de chant qui est elle-même amplifiée, qui passe par les médiations donc phonographiques, en fait, pour justement reproduire ces caractéristiques qui sont celles de l'enregistrement d'une musique médiatisée par des effets de réverbération, quelle que soit la réverbération, même si elle est très courte, mais ou de, vous voyez, le grave là, dans ma voix, tout ça qui ne pourrait pas passer si je vous parlais comme ça, directement. Et bien sûr qu'il y a des musiques qui sont tout à fait chantables sans ces médiations, et elles ont toujours existé, et elles existeront peut-être après la disparition de tous les supports d'enregistrement de la musique populaire, et encore heureux qu'on pourra encore faire des chansons. Donc c'est pour ça que je prétends pas du tout définir la musique pop, même si je parle de musique, mais l'art musical au sens de c'est quoi les œuvres qu'on apprécie comme œuvre et qu'on juge comme œuvre en disant j'adore ce hit. C'est pas que j'adore cette chanson, c'est j'adore cet enregistrement. Je veux dire, même si on peut reprendre Beat It en guitare-voix sur YouTube, c'est évidemment, parce que c'est une composition. L'œuvre pop, c'est pas que la composition. Du moins, c'est ce que j'essaie de défendre, c'est que c'est aussi cette production et cette interprétation de Michael Jackson très particulière. Et cette façon dont c'est mis. Et j'avais une expérience comme ça dans un colloque, enfin, je sais plus, une espèce de conférence musicale, où il y avait le conférencier s'est mis à parler des Beatles et à parler de la suite d'accords qui composait Let It Be, en disant, vous voyez, c'est fou. Ça, cet enchaînement, il n'a aucun sens, et pourtant ça a fait un tube. Et je m'étais dit, mais oui, mais c'est pas cet enchaînement qui a fait un tube, c'est l'enregistrement, c'est cette version de Let It Be, même s'il peut y en avoir plusieurs. Mais il a fallu passer par cette mise en son, cette fixation des sons, ça c'est un terme de musique concrète, hein, l'idée des sons fixés, et bien, dans la pop aussi, c'est les sons fixés. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que la musique, et encore heureux, elle existe. Par ailleurs, et elle survivra peut-être à cette médiation de l'enregistrement. Un jour, on en aura marre de ça, et ça existe déjà. Une envie de rompre aussi avec l'enregistrement.
Ouais, à la fin de ton livre, tu envisages la mort de l'enregistrement, ou en tout cas la mort de la connexion nécessaire entre pop et enregistrement. Oui. Et effectivement, d'une certaine manière, ça fait rêver, parce que par définition, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Oui. Et voilà, il y a sans doute déjà des seuils, peut-être des sentiments de saturation, peut-être qu'à un moment, il va y avoir comme un rejet.